Chapitre 14. Départ. Au commencement du monde existaient les hommes et les femmes du lignage, les bêtes des champs, les poissons de l'eau et les oiseaux du ciel. Tous vivaient dans l'équilibre, sinon dans l'harmonie. Le lignage ne comprenait que deux tribus. L'une comptait les preneurs de sang, liés aux créatures qui mangeaient la chair d'autres créatures, l'autre, les donneurs de sang, liés aux animaux qui se nourrissaient de plantes. Les deux tribus n'avaient rien en commun, pas plus qu'un loup et un mouton. Elles ne se retrouvaient que dans la mort. Toutefois, chacune voyait en l'autre un élément de la terre et la respectait, tout comme un homme respecte un arbre et un poisson. Les lois qui les séparaient étaient justes et rigoureuses. Mais il se trouve toujours des gens pour se croire au-dessus des lois ou considérer que leur cas constitue une exception. C'est ce qui arriva quand la fille d'un preneur de sang, liée à un renard, s'éprit du fils d'un donneur de sang, lié à un bœuf. Quel mal, se dirent-ils, pourrait-il bien naître de leur amour? Ils ne s'attaqueraient pas les uns les autres, ni l'homme, la femme, ni le renard, le bœuf. Et ils quittèrent leurs deux peuples, vécurent leur amour et firent des enfants. Mais le premier, un fils, était un preneur de sang. Le second, une fille, un donneur de sang. Et le troisième, un malheureux simple d'esprit, sourd à tout animal de toute terre et condamné à ne se mouvoir que dans son seul corps. Grande fut la peine de la famille quand l'aîné se lia à un loup et la puinée à un daim. Car le loup tua le daim, et pour se venger, la sœur tua le frère. Ils reconnurent alors la sagesse des anciennes coutumes et surent qu'un prédateur ne peut se lier à une proie. Mais le pire restait à venir, car leur enfant à l'esprit lent n'engendra que des enfants qui n'étaient pas plus vifs que lui. Et c'est ainsi qu'apparurent les hommes sourds à toutes les bêtes du monde. Conte du lignage de Tom Blaireau. Le printemps envahit la terre. Une brume vert pâle nimba les bois derrière le château. Dans les deux jours suivants, les feuilles se déployèrent et grandirent et la forêt recouvrit les collines. Les herbes poussèrent en hâte, écartant les tiges brunes et sèches de l'année passée. Le blanc inattendu des agneaux nouvelets apparut dans les troupeaux en pâture, et l'on commença d'évoquer la fête du printemps. Pour ma part, je restais ébahi qu'une seule année se fût écoulée depuis que, dans ma paisible chaumière, j'avais laissé Astérie emmener Heure à Castelserre. Trop d'événements s'étaient produits entre-temps. Trop de changements étaient intervenus. Le château bruissait d'un enthousiasme et d'une activité que les préparatifs de la fête annuelle ne suffisaient pas à expliquer. C'était au cours de cette période de réjouissance que le prince prendrait la mer pour les îles d'outre-mer. Et tout devait être prêt à temps. Le capitaine et l'équipage du « Fortune de Vierge » étaient ravis que leur navire eût été choisi pour le transport, et l'on se disputa fort parmi les gardes l'honneur d'escorter le prince. Pour finir, devant le nombre excessif de volontaires dont j'étais, il fut décidé de procéder à un tirage au sort afin de déterminer qui ferait partie des heureux élus. C'est sans surprise que je me vis choisi. La veille au soir, Imbre m'avait remis le lot que j'allais tirer. Civil Brésinga serait bel et bien de l'expédition, de même qu'Imbre et Lourd aussi, au grand étonnement de l'entourage du prince. Tram, en route pour devenir rapidement un des favoris de la reine, avait imploré la permission de Sa Majesté de suivre son fils, et l'avait obtenue. Il promit que sa mouette se porterait loin en avant, lors de la traversée, pour surveiller le temps. Civil n'était pas le seul aristocrate qui espéra escorter le prince. Un grand nombre de seigneurs et de dames exprimèrent leur désir de l'accompagner, et il me revint à l'esprit l'immense caravane qui avait pris la route des montagnes bien des années auparavant, alors que Kétriken n'était encore que fiancé à Vérité. Comme à l'époque, chaque noble qui se joignait à nous apportait avec lui toute une suite de domestiques et d'animaux, et il fallut louer d'urgence de nouveaux bateaux. Les personnages de haut rang qui n'avaient pas le temps où les moyens de participer au voyage tinrent néanmoins à marquer leur présence, et des cadeaux s'amassèrent au château, destinés non seulement à la Narchesca, mais aussi à sa maison maternelle et au clan de son père. Dans la tour de Vérité, Les leçons d'art se poursuivaient, mais mes élèves se montraient distraits et rétifs. Lourd percevait clairement l'inquiétude et l'impatience de devoir, et il y réagissait par une excitabilité qui l'empêchait de se concentrer convenablement. Le prince se présentait aux séances et en repartait avec l'expression d'un homme aux abois, constamment obligé de se rendre à un essayage ou à un cours de langue ou de manières outriliennes.
J'avais de la pitié pour lui, mais je m'apitoyais bien davantage sur moi-même quand je m'évertuais à glaner toutes les informations possibles dans ma collection de manuscrits. Même Humbre n'avait pas la tête à nos séances d'art. Il dirigeait en sous-main trop d'opérations au château pour quitter Castelserre sans prendre une infinité de dispositions. Malgré son vif intérêt pour l'apprentissage de sa magie, la plus grande partie de son attention était consacrée à choisir des gens à qui déléguer ses responsabilités. J'appris avec soulagement que Romarin ne serait pas du voyage, mais l'inquiétude me regagna quand je songeais qu'elle resterait en charge d'une bonne portion du réseau d'informateurs et d'espions du vieil assassin. Je me doutais aussi qu'Imbre continuait ses expériences sur sa poudre explosive, mais moins j'en savais sur ce sujet, mieux je me portais. Notre départ imminent suffisait amplement à occuper l'esprit, mais la vie ne permet à personne de tourner toutes ses pensées vers une tâche unique. Devoir et civil assistaient aussi à des leçons vespérales que donnait Tram sur l'histoire et les traditions du lignage. Elles avaient lieu devant une des cheminées de la grande salle, et Tram avait largement annoncé qu'il les ouvrait à quiconque s'intéressait au sujet. La reine elle-même s'y était présentée à plusieurs reprises. Tout d'abord, le public était clairsemé et de nombreux visages fermés. Mais Tram possédait un incontestable talent de conteur, et beaucoup de ses histoires étaient inconnues des habitants de Castelserre. Il gagna vite un auditoire, en particulier chez les enfants du château, et bientôt ceux qui demeuraient à l'écart pour filer la laine, empenner des flèches ou raccommoder des vêtements, se rapprochèrent à portée d'oreille. J'ignore si beaucoup furent convaincus qu'il n'y avait rien à craindre du lignage, mais au moins, ils acquirent une certaine connaissance des modes de vie et de pensée de ses membres. Tram comptait dans son cours un autre élève que je n'aurais jamais cru voir à Castelserre. Lest, le fils de Burick, qui l'écoutait en silence à l'extrême limite de son cercle d'auditeurs. La reine Kétricaine avait déclaré ouvrir les bras aux vifiers, et la nouvelle s'était répandue dans le pays, mais peu y avaient répondu, du moins publiquement. La difficulté sautait aux yeux. Comment proposer son fils ou sa fille comme page douée du vif, sans révéler que la magie coulait dans le sang de la famille entière? À la cour, peut-être la reine avait-elle les moyens de protéger l'enfant, mais ceux qui restaient chez eux. Pourtant, Sire Barnache, de la petite aristocratie servienne, avait amené son fils de 10 ans et unique héritier et déclaré à la reine qu'il appartenait au lignage, en précisant qu'il tenait sa magie de sa mère, morte depuis 6 ans et sans plus guère de parents survivants. La reine avait accepté l'enfant sur la foi de son père. Je soupçonnais aussi une couturière récemment arrivée à Castelserre, mais si elle ne souhaitait pas révéler son vif, je préférais la laisser tranquille. Kétricaine avait pris un second page. Nul autre que Lest. Il était venu seul, à pied, chaussé de bottes et vêtu d'une veste neuve, et porteur d'une lettre de Burick. J'avais observé sa présentation devant la reine depuis mon poste de surveillance habituel. Dans sa missive, Burick confiait le jeune garçon au loin voyant, et avouait avoir tout tenté pour le détourner du chemin qu'il avait choisi, mais en vain. S'il refusait de renoncer à sa vile magie, il pouvait la pratiquer à son gré. Mais son père en avait fini avec lui et s'opposait à ce qu'il demeurât auprès de ses jeunes frères. Il demandait aussi à ce qu'on ne le présentât pas comme son fils à la cour. Avec douceur, Kétricaine avait alors interrogé l'enfant sur le nom qu'il souhaitait porter. Lest avait relevé son visage pâle et répondit à mi-voix mais d'un ton ferme. « Vifier, c'est ce que je suis, et je ne veux pas le cacher. Tu seras donc Lest Vifier. » avait-elle déclaré avec un sourire. « C'est un nom qui te conviendra, je pense. Je te remets à présent entre les mains de Sire Humbre, mon conseiller. Il te trouvera des tâches appropriées à ton âge, ainsi que des leçons. » L'enfant avait poussé un petit soupir, puis s'était incliné profondément, soulagé à l'évidence que l'épreuve de l'audience royale fut terminée. Il était sorti d'une démarche raide, le dos droit. J'avais été choqué jusqu'au tréfonds de mon âme que Burick rejette ainsi son fils. Mais je m'en réjouissais également. Tant que Lest restait sous le toit de son père, et que le vif faisait litige entre eux, seul le malheur et l'affrontement pouvaient en résulter. La décision avait dû être difficile et amère pour Burick, et je passais une nuit presque blanche à me demander ce qu'en pensait Molly et si elle avait pleuré au départ de son fils. La tentation me taraudait de contacter Horty, mais je m'en étais abstenu depuis la folle aventure de devoir, lourd et humbre, dans le courant d'art. Certes, je ne voulais pas mélanger notre relation avec l'appel que le vieil assassin avait lancé, mais surtout, je tremblais encore au souvenir de la voix inconnue. Une trop forte émission risquerait d'attirer l'attention de l'entité sur ma fille ou sur moi, et je n'y tenais pas du tout. Pourtant, cette nuit-là, mon cœur trahit ma raison, et l'esprit d'Horty toucha le mien. On eût dit un hasard, comme si nous avions rêvé l'un de l'autre au même instant. Je m'émerveillais à nouveau de notre facilité à nous joindre, et me demandais si Humbre n'avait pas raison. Peut-être, sans m'en rendre compte, avais-je enseigné l'art à ma fille dès son plus jeune âge. Je la vis assise dans l'herbe, sous les vastes branches déployées d'un arbre. Elle dissimulait dans ses mains en coupe quelque chose qu'elle contemplait d'un air accablé. « Pourquoi ce chagrin ?» lui demandai-je. Quand elle me regarda, je me sentis prendre l'apparence qu'elle me donnait toujours. Je m'assis, rabattis ma queue sur mes pattes avant et lui adressai un sourire de loup. « Ce n'est pas mon véritable aspect, tu sais. Et comment pourrais-je le connaître ?» répliqua-t-elle avec humeur. « Tu ne me dis jamais rien sur toi. » Tout à coup, des pâquerettes poussèrent à ses pieds. Un petit oiseau bleu se posa sur une branche au-dessus de sa tête et déploya ses ailes délicates. « Que regardes-tu là ? » fis-je, curieux. « Peu importe, c'est à moi, comme tes secrets sont à toi. » Ses mains se refermèrent sur le trésor qu'elle tenait et elle le pressa sur sa poitrine, le dissimulant dans son cœur. Était-elle amoureuse ? « Voyons si je suis capable de deviner le tien, » proposai-je par jeu. L'idée que ma fille fût amoureuse et chérie jalousement ce sentiment m'emplissait d'un bonheur démesuré. J'espérais que l'élu était digne d'elle. Elle parut effrayée.
« Non, n'y touche pas. Ce secret ne m'appartient même pas. On me l'a seulement confié. »
« Quelque jeune homme t'aurait-il ouvert son cœur ? » fis-je d'un ton enjoué. Son regard s'emplit d'épouvante.
« Va-t'en, ne cherche pas à savoir. »
Une rafale de vent agita les branches de l'arbre, et nous vîmes l'oiseau se transformer en lézard bleu vif. Ses yeux d'argent papillonnant, il dévala le tronc jusqu'à la hauteur du visage d'Horty.
« Raconte-moi, » piépa-t-il, « j'adore les secrets. »
Elle le contempla avec dédain.
« Ta ruse ne me trompe pas. »
Elle fit mine de chasser le lézard d'une main méprisante.
« Va-t'en, espèce de casse-pied !»
Mais la créature bondit dans ses cheveux, enfonça ses griffes dans ses boucles et se mit soudain à grandir jusqu'à la taille d'un chat, tandis que des ailes poussaient à ses épaules. Horty poussa un cri strident et battit des mains pour s'en débarrasser, mais l'animal ne bougea pas. Il leva sa tête soudain prolongée d'un long cou et fixa sur moi son regard fascinant et argenté. Petit mais parfait, un dragon bleu me contemplait d'un air narquois. Sa voix aussi avait changé de façon effrayante, étrange et glaçante. Elle écorchait mon âme comme une râpe.
« Dis-moi ton secret, rêve de loup, » ordonna-t-il. « Parle-moi d'un dragon noir et du Nil. Vite, ou je lui arrache la tête des épaules. »
La voix tentait de s'accrocher à moi. Elle voulait s'emparer de moi afin de découvrir ce que j'étais. Je me dressai d'un bond, m'ébrouai et voulus rejeter mon apparence de loup afin de m'échapper du rêve, mais la créature me tenait. Je sentais son regard, la pression de son esprit qui cherchait à ouvrir le mien de force, tout en exigeant en silence que je lui révèle mon vrai nom. Horty se leva brusquement et saisit à deux mains la créature sifflante agrippée à ses cheveux. Elle me foudroya du regard alors que je restais bouche bée devant elle.
« Ce n'est qu'un rêve, rien qu'un rêve !» « Tu ne me soutireras pas mes secrets ainsi. Ce n'est qu'un rêve, je le brise et je me réveille, comme ça !»
J'ignore comment elle s'y prit. Au lieu d'extraire sa propre forme du songe, elle emprisonna le dragon. Il se changea en ver bleu entre ses mains et elle le projeta loin d'elle. Il heurta le sol à mes pieds et explosa en une tempête d'éclats tranchants. La douleur des entailles qu'il m'infligèrent me tira soudain du sommeil. Je m'assis dans mon lit avec un hoquet de souffrance, les mains crispées sur la vieille couverture d'ambre, puis je me levai d'un bond et me frottai vivement la poitrine pour en faire tomber les morceaux de verre, en m'attendant à ressentir la piqûre de dizaines de coupures sanglantes. Mais je ne trouvais que de la sueur sous mes paumes. Je fus parcouru d'un frisson. Puis je me mis à trembler comme pris d'un accès de fièvre, et je passai le reste de la nuit dans un fauteuil, devant le feu, emmitouflé dans ma couverture, le regard perdu dans les flammes. J'avais beau tourner en tous sens l'expérience que je venais de vivre, je n'y comprenais rien. Qu'est-ce qui était du rêve, et qu'est-ce qui était de l'échange d'art avec Orti? Je n'arrivais pas à tracer de limites précises, et j'avais peur, non seulement terrifié à l'idée qu'un être issu du flot d'art pût nous avoir repérés tous les deux, mais aussi effrayé de la puissance que j'avais perçue chez Orti quand elle nous avait sauvés du regard mortel de la créature. Je ne parlais de ce rêve à personne. Je savais quelle réponse Imbre donnerait à mes inquiétudes. « Faites venir Orti à Castelserre. Ici, nous pourrons la protéger et la former à l'art. » Je ne le voulais pas. Je restais simplement sous le coup de la fin bizarre d'un songe auquel s'étaient mêlées mes pires craintes. Je m'accrochais à cette explication de toutes mes forces, comme si je pouvais en faire la vérité par ma seule volonté d'y croire. Le jour, il m'était plus facile de remiser ces peurs. Bien d'autres préoccupations se disputaient mon attention, et j'avais de nombreuses affaires à régler avant de partir. Je descendis chez Guindast, versé une considérable avance sur la formation de Heur. Mon garçon paraissait s'épanouir dans son apprentissage. Guindast lui-même me dit qu'il l'étonnait presque tous les jours.
« Maintenant qu'il s'est décidé à travailler, »
ajouta-t-il avec insistance. Et je sentis dans cette remarque un reproche à ma négligence de parent. Mais c'était Heur qui s'imposait cette nouvelle discipline, et je lui en attribuais tout le mérite. Tous les 3 ou 4 jours, je prenais sur mon temps pour passer le voir, même rapidement. Nous parlions, non de Svania, mais de ses progrès à l'atelier, de la prochaine fête du printemps et d'autres sujets semblables. Je ne lui avais pas encore appris que je quitterais Castelserre avec le prince. Il n'aurait pas manqué de s'en vanter auprès des autres apprentis, voire d'en parler à Gina, qu'il continuait à voir de temps en temps. Par habitude, je préférais garder secret mes plans de voyage jusqu'à la dernière minute. Mieux valait ne donner à personne l'occasion d'établir un lien entre le prince et moi, me disais-je. Je refusais de m'avouer que ma réticence provenait en partie de ma répugnance à me séparer de mon fils adoptif pendant une longue période, d'autant plus que je m'attendais à rencontrer du danger. J'avais prêté garde à l'avertissement du fou, et après m'être muni dans l'armurerie d'Imbre d'une impressionnante panoplie de petits objets à vocation meurtrière, j'avais entrepris de modifier mes vêtements pour les dissimuler. Ce fut un travail laborieux, qui mit mes nerfs à rude épreuve, et au cours duquel j'appelais souvent de mes vœux les suggestions astucieuses du fou et ses doigts habiles. Je le vis peu au cours de cette période. Il m'arrivait d'apercevoir Sire Doré dans les salles et les cours du château, mais toujours entouré de jeunes aristocrates fringants, comme on m'envoyait d'ailleurs partout dans Castelserre. La quête du prince paraissait exercer une étonnante fascination sur un certain type de jeunes hommes, à la fois désireux de prouver leur valeur et prêts à dilapider la fortune de leur famille pour s'amuser. Ils allaient à Sire Doré comme les papillons à la lampe. Puis un jour, j'entendis une rumeur selon laquelle il enrageait contre les navires chalcédiens qui désorganisaient le commerce et retardaient l'arrivée de manteaux jamaïliens qu'il avait commandés spécialement pour l'expédition dans les îles d'outre-mer. On les disait ornés de dragons brodés en fil noir, bleu et argent. Je questionnais Imbre, qui était monté à la tour ce soir-là pour m'aider à apprendre les rudiments de la conversation outrilienne. La langue partageait de nombreux mots avec le parler commun des six-duchés, mais déformés et prononcés de façon gutturale. Mes efforts m'avaient laissé la voix éraillée. « Saviez-vous que Sire Doré compte toujours nous accompagner ?» demandai-je.
« Je ne lui ai pas donné lieu de croire le contraire. Réfléchis, Fitz, il est très ingénieux. Tant qu'il croira devoir voyager avec le prince, il ne prendra pas d'autres dispositions, et moins nous lui laisserons de temps pour en trouver de nouvelles, moins il y a de risques qu'il parvienne à contrecarrer notre volonté. »
« Mais vous disiez être capable de l'empêcher de quitter Castelserre par bateau. »«
En effet, je le puis, mais il dispose apparemment de fonds considérables, Fitz, ce qui lui ouvre bien des portes. Pourquoi lui laisser plus de temps que nécessaire pour découvrir une solution de rechange ?»
Il détourna le visage.
« Quand le jour viendra d'embarquer, on lui dira simplement qu'une erreur de calcul a été commise, qu'il n'y a pas de place pour lui à bord, et qu'il pourra peut-être prendre un autre navire plus tard. Mais je veillerai à ce qu'ils soient tous complets, eux aussi. »
Je me tus un moment, essayant d'imaginer la scène, et secouai la tête. Puis je répondis à mi-voix. « C'est une façon bien grossière de traiter un ami, il me semble. »
« Si nous le traitons ainsi, c'est précisément parce qu'il est ton ami. C'est toi qui m'as demandé de le retenir à Castelcerf. Il t'a révélé avoir prévu sa mort sur Asclevial, et il t'a pressé d'empêcher le prince de tuer le dragon noir. Je te le répète, je ne crois guère à ces deux éventualités. Si le seigneur Doré ne nous accompagne pas, il ne pourra pas mourir sur cette île, ni t'inciter à entraver la mission du prince. » De toute manière, je ne m'attends pas à une épopée. Il n'aura manqué que des travaux de terrassement rendus pénibles par le froid. À mon avis, le haut fait du prince consistera simplement à couper la tête d'une créature morte et ensevelie dans la glace depuis une éternité. Comment vous entendez-vous en ce moment ?
Il avait glissé si adroitement la question à la suite de ses réflexions que j'y répondis sans réfléchir. Ni bien ni mal. En vérité, je ne le vois guère. J'examinais mes ongles et me décollait une envie. Il me fait l'effet d'être devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais guère, et que je n'aurais aucune raison d'apprendre à connaître davantage, étant donné nos rôles respectifs.
J'éprouve le même sentiment. J'ai l'impression qu'il est très occupé ces derniers temps, mais j'ignore à quoi exactement. D'après les potins, je sais seulement qu'il mise gros dans des jeux de hasard. Il dépense son argent sans compter en dîner, bonnes bouteilles et vêtements raffinés qu'il offre à ses amis, mais il en dépense encore davantage en jouant avec eux. Aucune fortune ne permet de tenir pareil train bien longtemps.
Je fronçai les sourcils. Cela ne ressemble pas au personnage que je connais. Il est rare qu'il agisse sans motif, mais j'avoue n'en discerner aucun à son attitude. Humbre éclata d'un rire sans joie.
« Ah ! C'est ce qu'on dit souvent quand on voit un ami succomber à une faiblesse. Il ne serait pas le premier homme intelligent à tomber victime d'un appétit déraisonnable pour les jeux de hasard. D'ailleurs, tu y as ta part de responsabilité. Depuis que Devoir a introduit celui des cailloux à la cour, il fait fureur. Les jeunes l'ont rebaptisé Pierre du Prince. Et, comme dans toutes les modes, ce qui a débuté modestement est devenu terriblement onéreux. Non seulement les adversaires parient les uns contre les autres, mais à présent l'assistance mise sur ses joueurs préférés, et les enjeux d'une seule partie peuvent se monter à de petites fortunes. Même les carrés de tissu et les cailloux ont pris de la valeur. Sir Valsop a créé un tablier en noyer incrusté de lignes d'ivoire, accompagné de pions en jade, en ivoire et en ambre. Une des meilleures tavernes de la ville a transformé tout son premier étage à l'usage exclusif des amateurs de ce jeu. Il faut débourser rien que pour y monter. On n'y propose que les vins et les mets les plus raffinés, servis par les servantes les plus avenantes.
J'étais effaré. Et tout ça à partir d'un petit exercice destiné à aider Devoir à se concentrer sur l'art. Humbre s'esclaffa.
« Il ne peut prévoir la carrière des choses les plus insignifiantes. »
Une question me revint à l'esprit. En parlant des faits inattendus, certains des gens que nous avons sentis réagir lorsque Devoir et Lourd ont artisé se sont-ils présentés à Castelcerf ?
« Pas encore, »
répondit Humbre en s'efforçant de dissimuler sa déception.
J'espérais qu'ils se précipiteraient, mais je suppose que mon appel leur a paru trop étrange et les a pris par surprise. Il faudra un jour nous réunir tous, étendre notre art de la même façon, mais de manière consciente et intentionnelle. La dernière fois, j'ai compris que nous pouvions battre le rappel de ceux que nous avions éveillés, mais je me suis précipité et je n'ai pas été clair. Et aujourd'hui, il reste si peu de temps avant notre départ qu'il est inutile de les contacter à nouveau. Toutefois, il devra s'agir d'une de nos préoccupations essentielles à notre retour. Ah, que ne donnerais-je pour que notre prince s'en aille en compagnie d'un clan traditionnel composé de 6 artiseurs confirmés à ses ordres. Mais nous ne sommes que 5, et l'un de nous est le prince lui-même.
4. Nous n'emmenons pas Sire Doré. Le repris-je.
« 4 »,
confirma Humbre d'un ton lugubre. Il me regarda et le nom d'Ortier resta en suspens entre nous, sans qu'aucun de nous le prononce. Puis, il ajouta comme s'il s'adressait à lui-même,
« Mais nous n'avons pas le temps d'en former de nouveaux. D'ailleurs, il en reste à peine assez pour former ceux dont nous disposons. »
Je l'interrompis avant qu'il n'eût le temps de formuler ses récriminations contre lui-même. « Cela viendra avec le temps, Humbre. Forcer ne sert à rien. J'en suis convaincu. On ne peut s'améliorer à l'épée par la seule volonté. Il faut y adjoindre un entraînement incessant et des exercices qui n'ont apparemment rien à voir avec le but recherché. Soyez patient, Humbre, avec vous et avec nous. » Il n'entendait toujours aucun des membres du clan l'artisé, sauf s'il se trouvait en contact physique avec lui. Il avait conscience de l'art de l'ours, mais seulement comme un bourdonnement d'insectes à son oreille et dépourvu de sens. J'ignorais pourquoi nous ne parvenions pas à l'atteindre, et j'ignorais pourquoi il n'arrivait pas à nous joindre. Il possédait l'art. Ma guérison et le rétablissement de mes cicatrices prouvaient qu'il jouissait d'un grand talent dans ce domaine. Mais c'était un homme consumé d'ambition, et il n'aurait de cesse qu'il ne maîtrisât le spectre tout entier de sa magie. Cependant, mes efforts pour le rassurer avaient seulement orienté ses réflexions vers une autre voie.
« Préférerais-tu une hache ? » fit-il à brûle-pourpoint.
Je le regardais fixement, un instant égaré, puis je compris sa question. « Il y a des années que je n'en ai plus manié au combat, » répondis-je. « Naturellement, je puis reprendre quelques leçons avant de partir, mais vous venez de dire, me semble-t-il, que c'est surtout l'ennui que nous aurions à craindre dans ce voyage. Après tout, qui voudrait nous attaquer ? » ?»«
Simple précaution. Et puis une hache pourrait se révéler plus utile qu'une épée contre la prison de glace du dragon. Demande-en une au maître d'armes demain et pratique quelques exercices pour te la remettre en main. »
Il pencha la tête et sourit. Je connaissais ce sourire, et je m'étais préparé à un choc quand il m'annonça.
« Tu enseigneras le maniement des armes à l'est, ainsi que la lecture et le calcul. Il n'est pas à sa place dans les cours de la grande salle avec les autres enfants. Sous la férule de Burik, il a beaucoup appris, et il est en avance, si bien qu'il s'ennuie avec ceux de son âge et se sent mal à l'aise avec les plus grands. Ketriken estime qu'il travaillera mieux avec un précepteur, et c'est toi qu'elle a désigné.
« Mais pourquoi moi ? » rétorquai-je. Ce que j'avais observé du garçon durant les leçons de Tram ne me donnait nullement envie de le prendre comme élève, dans quelque discipline que ce fût. Sombre et renfermé, il écoutait d'un air grave et solennel les histoires qui faisaient pleurer de rire ses camarades. Il parlait peu et observait beaucoup, avec les yeux noirs de Burik. Il avait le maintien raide et toute la bonne humeur d'un garde qui vient de recevoir le fouet. Je n'ai pas les qualités d'un précepteur. En outre, je pense que moins j'aurai de rapport avec cet enfant, mieux cela vaudra pour lui et moi. Imaginons que son père vienne lui rendre visite et que le petit veuille lui présenter son professeur. Ça poserait de sérieux problèmes. Humbre secoua la tête d'un air attristé.
« J'aimerais que ce risque existe. Depuis 10 jours que cet enfant se trouve au château, Burik n'a pas envoyé un mot pour dire qu'il regrettait de l'y avoir envoyé. Je crains qu'il n'ait bel et bien désavoué son fils. C'est une des raisons pour lesquelles Ketriken juge très important que quelqu'un se charge de lui seul. Il a besoin d'un homme adulte dans sa vie. Donne-lui le sentiment qu'on ne le laisse pas à l'abandon, Fitz.
« Pourquoi moi ? » répétai-je d'un ton funèbre. Humbre sourit.
« À mon avis, Ketriken perçoit dans cette situation une symétrie qui lui plaît, et j'avoue y voir, moi aussi, une certaine forme de justice, quoiqu'un peu rudimentaire. »
Il s'interrompit, puis reprit plus sérieusement.
« À qui d'autre voudrais-tu que nous le confions ? À quelqu'un qui méprise le vif ? Quelqu'un pour qui la responsabilité de cet enfant serait un fardeau, et qui ne se sentirait aucune obligation envers lui ? « Non. Il est à toi désormais, Fitz. Aide-le à grandir et apprends-lui à manier la hache. Il devrait acquérir la carrure de Burik avec l'âge. Pour le moment, il n'a que la peau sur les os. Emmène-le tous les jours au terrain d'exercice et muscle-moi cette carcasse. »
« D'accord, à mes heures perdues. » promis-je, la mine sombre. Burick m'avait-il regardé avec la même angoisse que m'inspirait son fils? Probablement. Mais, si forte que fût mon inquiétude, les paroles d'Imbre avaient inéluctablement scellé ma décision. À l'instant où il avait demandé « À qui d'autre voudrais-tu que nous le confions ?» La peur m'avait saisi en songeant à ce qui risquait d'arriver à l'Est si je me désistais. Je n'avais certes pas envie d'assumer une nouvelle charge, surtout alors, mais je ne supportais pas l'idée qu'on le remette à un autre qui ne lui manifesterait que cruauté ou indifférence. Telle est l'illusion dont se bercent tous les hommes une fois qu'ils ont été parents. Ils sont convaincus que nul n'est mieux fait qu'eux pour ce rôle. La perspective de reprendre la hache m'emplissait de crainte, elle aussi. J'allais souffrir. Pourtant, Imbre avait raison. C'est avec cette arme que j'avais toujours été le plus doué. L'épée était trop raffinée pour moi. Je songeais avec regret à celle magnifique que le fou m'avait offerte. Elle était restée chez lui en même temps que ma garde-robe extravagante quand j'avais quitté son service. Jouer son domestique m'avait gêné, mais je me découvrais à présent nostalgique de cette période. J'avais au moins l'occasion de passer du temps en sa compagnie. Notre dernière conversation avait comblé en partie l'abîme qui nous séparait, mais, d'un autre côté, elle avait établi une distance entre nous. Elle m'avait confronté au fait que le fou ne représentait qu'une facette de l'homme que je croyais connaître. Je désirais retrouver son amitié, mais comment le pouvais-je, sachant que le fou n'était qu'un de ses aspects? C'était, je m'en fis sombrement la réflexion, comme être l'ami d'une marionnette et s'efforcer de ne pas voir l'homme qui lui donnait parole et mouvement. Pourtant, tard le même soir, je me rendis à ses appartements et frappai doucement à la porte. Une faible lueur sourdait en dessous, mais je dus attendre un long moment dans le couloir avant qu'une voix demande d'un ton irrité.
« Qui est-ce ?»«
Tom Blaireau, sire doré. Puis-je entrer ?» Après un bref silence, j'entendis la clenche se lever et je pénétrai dans une pièce que je reconnus à peine. La discrète élégance avait fait place au luxe ostentatoire. D'épais tapis se chevauchaient sur le sol. Les bougeoirs de la table luisaient avec l'éclat inimitable de l'or, et, à en juger par le parfum capiteux qu'exhalait la flamme des longues chandelles, il aurait aussi bien pu faire brûler des pièces d'argent. L'homme qui se tenait devant moi portait une somptueuse robe de chambre en soie brodée de pierres précieuses. Même la décoration des murs avait changé. Les simples scènes de chasse, communes à de nombreuses tapisseries du château, avait été remplacé par des représentations chamarrées de jardins et de temples jamaïliens.
Comptez-vous entrer et fermer la porte ou bien préférez-vous rester planté là, à bâiller aux corneilles ?
Fit-il avec agacement.
Il est tard, Blaireau. L'heure n'est plus aux visites de voisinage.
Je fermai le bâton derrière moi. Je sais, et je m'en excuse, mais chaque fois que je me suis présenté plus tôt, vous étiez absent.
Avez-vous oublié quelque affaire en déménageant votre chambre après avoir quitté mon service? La hideuse tapisserie qui pend au mur, peut-être?
Non. Avec un soupir, je résolus de refuser le rôle qu'il voulait me faire endosser à nouveau. Tu me manques, et je me reproche constamment la querelle stupide que j'ai provoquée lors du séjour de Jack. Tu m'en avais prévenu. Je suis condamné à me la rappeler tous les jours. Et à regretter tous les jours de ne pouvoir effacer les mots que j'ai prononcés. M'approchant de la cheminée, je me laissai tomber dans un des fauteuils près du feu déclinant. Sur une petite table, toute proche, était posée une carafe d'eau-de-vie et un verre dans lequel subsistait un fond d'alcool.
J'ignore de quoi vous parlez, et je m'apprêtais à me coucher. Allez au fait, Blaireau.
Garde-moi rancune si tu veux. Je le mérite sans doute. Reproche-moi ce qui te plaira. Mais cesse cette comédie, et sois toi-même. C'est tout ce que je demande. Il se tut un moment et me toisa avec une hauteur désapprobatrice. Puis, il prit place dans le second fauteuil et remplit son verre d'alcool, sans m'en proposer. À l'odeur, je reconnus l'eau-de-vie d'abricot que nous avions partagée dans ma chaumière, moins d'une année plus tôt. Il but une gorgée, puis dit
« Que je sois moi-même. Et qui cela serait-il ?»
Il posa son verre, s'adossa dans son fauteuil et croisa les bras sur sa poitrine. Je l'ignore. J'aimerais que ce soit le fou, murmurai-je. Mais il est trop tard désormais, je pense, pour revenir en arrière et croire de nouveau à cette fiction. Pourtant, si c'était possible, je serais prêt à me convaincre de sa réalité. Je détournai les yeux et du pied repoussai une bûche dans le feu. De nouvelles flammes naquirent dans une gerbe d'étincelles. Quand je songe à toi aujourd'hui, je ne sais même plus par quel nom te désigner. À mes yeux, tu n'es pas vraiment Sire Doré, et tu ne l'as jamais été. Cependant, tu n'es plus le fou non plus. À mesure que les mots me venaient, impromptus et pourtant évidents, je me bardais de tout mon courage. Pourquoi la vérité était-il si difficile à dire? Pendant une effrayante fraction de seconde, je craignis qu'il ne se méprît sur mes propos, puis j'eus la certitude qu'il en comprendrait parfaitement le sens. Des années durant, il m'avait prouvé, dans ses silences, qu'il percevait mes sentiments avec exactitude, et je devais réparer, et Da savait comment, la déchirure entre nous avant que nous nous séparions. Je ne disposais pas d'autre outil pour cela que les mots. En eux résonnait la magie ancienne, le pouvoir que l'on acquérait sur l'autre quand on découvrait son vrai nom. J'étais résolu, et pourtant, j'avais du mal à exprimer ce que j'éprouvais. Un jour, tu m'as dit que je pouvais t'appeler bien-aimé, si je ne voulais plus te nommer fou. Je pris une longue inspiration. Bien-aimé, la compagnie me manque. Il porta brusquement la main à sa bouche, puis, déguisant son geste, se frotta le menton comme s'il réfléchissait profondément. J'ignore quelle expression il dissimulait derrière sa paume. Quand il la baissa, il affichait un sourire narquois.
« Ne crois-tu pas que cela risque de susciter quelques commentaires dans le château ?»
Je me tus, car je ne connaissais pas la réponse à cette question. Il s'était adressé à moi du ton moqueur du fou, mais, bien que j'en eusse le cœur apaisé, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il ne s'agissait pas d'un rôle qu'il endossait à mon seul profit. Me montrait-il ce que je souhaitais voir ou ce qu'il était réellement?
Bah, il soupira. S'il te fallait absolument un nom pour me désigner, j'imagine que celui de fou resterait encore le plus approprié.
Tenons-nous-y donc, Fitsune. Pour toi, je suis le fou.
Il plongea le regard dans les flammes et un petit rire l'agita.
L'équilibre est rétabli, je pense. Quoi que le destin nous réserve, je pourrai toujours me raccrocher au souvenir de cette conversation.
Il se tourna vers moi et hocha gravement la tête comme s'il me remerciait de lui avoir rendu un bien précieux. Les sujets dont j'aurais voulu parler avec lui ne manquaient pas. La mission du prince, Tram, la raison de son subit intérêt pour le jeu et de ses dépenses extravagantes. Mais quelque chose me retint d'ajouter un mot à ce que nous avions dit ce soir-là. Selon ses propres termes, l'équilibre était rétabli. Nous nous trouvions sur une balance sensible et je ne tenais pas à prononcer un mot qui pût la faire pencher à nouveau. Je lui retournai son hochement de tête et me levai lentement. Parvenu à la porte, je murmurai. « Eh bien, bonne nuit, fou. » J'ouvris le battant et sortis dans le couloir.
« Bonne nuit, bien-aimé, »
répondit-il de son fauteuil devant la cheminée. Je fermai doucement l'œil derrière moi.